L'heure du journal avec vous, Ezekiel Fernandez.
Bonsoir à tous. L'État islamique se rappelle au bon souvenir de Bachar al-Assad en Syrie en signant des attaques suicides meurtrières hier dans le sud. Précision dans ce journal signé Mathieu Laurent. Les États-Unis mettent la pression sur le président du Nicaragua, Daniel Ortega, soumis à une fronde populaire grandissante. Les raisons de cette ingérence n'ont rien d'humanitaire, selon Maya Colombone, spécialiste des pays d'Amérique latine. En Grèce, le bilan des incendies près d'Athènes s'élève à 81 morts, plus élevé qu'en 2007. D'ores et déjà, les leçons de la précédente tragédie n'ont pas été entendues, nous dira Angélique Kourounis. Au lendemain, en France, l'intervention d'Emmanuel Macron. Parmi ses affidés, l'opposition s'étrangle d'indignation. Les commissions d'enquête poursuivent leurs auditions. On sait qui est le patron, mais rien de plus sur ce qui a conduit Alexandre Benalla à tabasser un manifestant le 1er mai dernier. L'État islamique vient donc de frapper fort en Syrie. Des attentats suicides, des raids dans des villages de la province de Souaïda, dans le sud du pays, ont fait hier 180 morts, un bilan provisoire bien sûr. Il s'agit pourtant d'une région contrôlée par les forces de Bachar al-Assad, relativement épargnée jusqu'à maintenant. Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir Ezekiel et bonsoir à tous.
Ce que l'on sait, c'est que ces attaques sont les plus importantes et les plus meurtrières depuis des mois.
Oui, des effectifs djihadistes confinés dans des réduits montagneux et repliés dans une zone désertique du nord-est de cette province de Souaïda avait déjà mené des raids contre les troupes du régime, mais jamais une somme d'attentats suicides perpétrés au cœur du chef-lieu de la dite province, la ville éponyme de près de 100 000 habitants, comme dans trois villages. Des villages dont ils ont pris le contrôle avant d'être défaits et de fuir dans le désert à la suite d'une contre-attaque. Selon l'agence gouvernementale, cette campagne d'attentats oblige l'armée loyaliste à dérouter des hommes et des blindés appliqués à combattre d'autres effectifs djihadistes un peu plus à l'ouest, dans les provinces de Dera et de Kouneitra, en bordure de la frontière jordanienne et de la partie du Golan annexée par Israël, là où le régime et ses alliés russes et iraniens mènent une vaste opération de reconquête. L'organisation État islamique, comme en juin dernier à Boukamal, dans la province de Deir ez-Zor, sort de sa clandestinité en mobilisant plusieurs kamikazes avant de lancer ses commandos à l'assaut de points névralgiques d'un village ou d'un bourg, mais ses recrues perdent vite du terrain. Quant aux affrontements au sol, s'ajoutent de massifs bombardements aériens. 89 des 183 victimes dénombrées jusqu'alors à Souaïda et environ par l'Observatoire syrien des droits de l'homme sont des civils. La capacité de nuisance de Daesh reste considérable, tout comme celle de la riposte loyaliste. Damas et ses soutiens, en effet, n'attendent pas l'évacuation des zones de combat pour bombarder les positions tenues par son ennemi djihadiste.
Merci Mathieu Laurent. Autre décompte macabre en Grèce, au moins 81 personnes ont péri dans de violents incendies, des vents violents, une chaleur intense, de multiples départs de feu, explique la gravité du phénomène. Un bilan d'ores et déjà plus lourd qu'il y a 11 ans de cela. Prévention insuffisante, pas de plan d'évacuation, des infrastructures inexistantes, autant de manques qui explique l'ampleur de cette catastrophe. Angélique Kourounis, le vent de la polémique commence à souffler sérieusement sur les braises.
Plus on avance dans le quadrillage des régions sinistrées en Grèce, plus le bilan des morts augmente et plus une vérité s'impose. Les leçons des terribles incendies de 2007 n'ont pas été retenues par les autorités grecques et l'austérité imposée qui a réduit le budget des pompiers de 452 millions d'euros en 2009 à 354 cette année, soit presque 100 millions de moins pour un pays qui connaît des incendies meurtriers récurrents, n'a pas arrangé les choses. D'un point de vue législatif, il n'y a toujours pas d'obligation à débroussailler, à élaguer les arbres, à s'assurer contre les incendies, ce qui fait que lorsque le feu éclate, les gens prennent des risques pour sauver leur maison et parfois le payent de leur vie. Du point de vue de la protection civile, il n'existe aucun plan d'évacuation des régions menacées. Et en 2007, il avait été dit que l'une des premières choses à faire était justement de mettre ces plans sur pied. Rien n'a été fait. Enfin, la forêt, les pinèdes ne sont pas entretenues et ça, c'est une question d'argent. Il n'y a pas de chemin de dégager, pas de réserve d'eau à disposition. La biomasse est là pour les flammes, alors que souvent les pompes à incendie sont vétustes. Les gouvernements grecs de ces 20 dernières années ont donné la priorité à la lutte anti-incendie via les airs, ce qui nécessite peu de vent, ce qui est rarement le cas quand le feu fait rage, et pas à la prévention, pensée, réfléchie, en fonction des données sur le terrain. Le prix à payer pour la population est énorme, et le pire, selon bon nombre de commentaires sur les réseaux sociaux et la presse locale, est que probablement les leçons de ces incendies de 2018 ne seront pas plus tirées que celles de 2007.
Angélique Kourounis, à Mati, près d'Athènes. Au Nicaragua, la contestation du pouvoir exercé par Daniel Ortega se trouve de plus en plus soutenue par les États-Unis. La répression aurait fait dans ce pays 280 morts en trois mois. Washington demande au président de l'État d'Amérique centrale de cesser les violences répressives, d'organiser des élections anticipées. Daniel Ortega, pour sa part, ne compte pas s'en aller avant le terme de son mandat en 2021. Il a encore appelé lundi. Jusqu'à mi-2016, les relations Washington-Managua étaient pourtant bonnes. Nicaragua était même devenu un excellent partenaire en matière de lutte contre contre le narcotrafic. Depuis, la donne a changé. Daniel Ortega se trouve confronté à une fronde populaire grandissante qui conteste un pouvoir corrompu et de plus en plus autoritaire. Alors pourquoi aujourd'hui les États-Unis hostilent le ton? Question posée à Maya Colombon. Elle est spécialiste des pays d'Amérique latine, enseignante chercheuse à Sciences Po Lyon.
Pour moi, cette gradation, elle est liée à une principale préoccupation des États-Unis face à la crise nicaraguayenne, c'est la question migratoire. C'est-à-dire que le pays est en train, depuis 3 mois, d'expulser une grande quantité de Nicaraguayens. La plupart, première destination de migration, c'est le Costa Rica voisin. Mais évidemment, une partie des Nicaraguayens essaie de partir vers les États-Unis. Donc il y a un flot qui a tendance à s'accroître au fur et à mesure de la crise, qui va vers les États-Unis. Et puis aussi, bien sûr, l'effet économique qu'a la crise nicaraguayenne sur l'ensemble de la région centra-américaine. La région centra-américaine est très liée économiquement. Voilà, le fait que, par exemple, les marchandises ne puissent plus circuler, passer par le Nicaragua et donc circuler du nord vers le sud ou du sud vers le nord, a des effets économiques désastreux sur le Nicaragua, qui est dans une crise économique en plus de la crise humaine, sociale, politique évidemment, mais qui peut avoir des conséquences sur l'ensemble des pays voisins.
On est loin de se soucier là des vies humaines et de la répression.
Oui, je crois malheureusement que c'est pas la première des préoccupations, puisque sinon les États-Unis auraient réagi bien avant. Ça fait 3 mois. Depuis 3 mois, le bilan est chaque jour plus dramatique. Pas plus tard que ce matin, on a découvert les premières fosses communes au Nicaragua. Donc voilà, le bilan est dramatique, mais depuis très longtemps. Et jusqu'à présent, les États-Unis n'avaient rien fait, n'avaient rien dit.
Maya Colombon, spécialiste des pays d'Amérique latine, enseignante chercheuse à Sciences Po Lyon. Les résultats des élections législatives au Pakistan seront connus en principe dans la soirée. Les bureaux sont fermés, bien sûr. Le scrutin qui concerne 106 millions d'électeurs a été marqué par un attentat suicide ce matin qui a fait 31 morts près d'un bureau de vote, attentat revendiqué par l'État islamique. Deux candidats sont en concurrence essentiellement, l'ex-champion de cricket Imran Khan, qui a bâti son programme sur la lutte contre la corruption, et Shahbaz Sharif, frère de l'ancien chef du gouvernement Nawaz Sharif. La participation aujourd'hui est estimée entre 50 et 55%. Après la spectaculaire entrée en lice hier soir d'Emmanuel Macron dans le déroulement assez chaotique, faut bien dire, de ce qu'on appelle l'affaire Benalla, les débats ont été phagocytés aujourd'hui par les commentaires outrés de l'opposition, de droite ou de gauche. Pendant ce temps, les auditions se poursuivent, des personnalités de la gendarmerie, de la police ont été entendues par la commission des lois du Sénat, comme le patron des gendarmes, le général Richard Lizuret. En attendant, demain, Alexis Kohler, le très attendu secrétaire général de l'Élysée, ce sera devant les sénateurs. Bonsoir, Maïwenn Bordron.
Bonsoir Ezekiel, bonsoir à tous.
Cela fait une semaine tout juste que le scandale a éclaté. On a l'impression d'ailleurs que ça fait des semaines déjà. Après les premières révélations du journal Le Monde, certains commencent à se poser la question, ou à le souhaiter, selon que l'on se situe dans un camp ou dans l'autre. L'affaire en question va-t-elle s'essouffler maintenant que la parole présidentielle a été entendue?
C'est en tout cas ce sur quoi le gouvernement mise, un essoufflement de l'affaire Benalla. Le porte-parole, Benjamin Griveaux, l'a redit en début d'après-midi lors du traditionnel point presse post-conseil des ministres. Le travail gouvernemental se poursuit. Des changements profonds interviendront suite à cette affaire, mais pas avant la rentrée.
Il faudra tirer les conséquences de cette affaire pour avoir une organisation plus forte, mais également plus transparente. Les faits récents sont la responsabilité d'individus, mais les procédures collectives de contrôle ont été défaillantes. Il faudra y remédier. C'est par exemple le sens de la mission qui a été confiée au secrétaire général de l'Élysée.
D'ici la rentrée, le gouvernement tente donc de temporiser en annonçant plusieurs réorganisations. En ligne de mire, les services de l'Élysée et les forces de sécurité. Reste à savoir si ces mesures qui seront prises dans plus d'un mois suffiront à faire taire les critiques. Sauf nouvelle révélation, l'affaire Benalla pourrait en fait rapidement s'essouffler. C'est l'analyse de Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP.
Les principaux protagonistes de l'affaire ont commencé à être entendus depuis le début de la semaine par l'Assemblée puis par le Sénat. Donc une fois que tout le monde aura été entendu et que le président s'étant exprimé, je pense que les ingrédients nouveaux qui viendraient nourrir cette affaire viendront à manquer et on peut penser que d'ici la fin de la semaine, les choses devraient se tasser. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas du tout, loin s'en faut, d'impact sur l'image et la relation que les Français ont nouée avec leur président.
Le gouvernement veut maintenant prouver que l'agenda présidentiel n'est plus perturbé par cette affaire. Demain, Emmanuel Macron se rend en Espagne pour rencontrer le chef de gouvernement Pedro Sanchez et le roi Felipe VI. Une rencontre prévue le mois dernier et qui n'a pas été annulée malgré l'actualité politique plus que chargée en France.
C'est le moins qu'on puisse dire. Merci Mayenne Bordron. Hier, durant le happening devant ses troupes, Emmanuel Macron a adopté une posture, disons, assez provocante. À gauche, notamment, on l'accuse de se protéger derrière le statut intouchable que lui procurent les institutions de la Ve République. Passablement agacé par ses déclarations, le député France Insoumise Alexis Corbière, membre de la commission d'enquête parlementaire, est prêt à prendre le président au mot lorsque celui-ci déclare qu'il vient de me chercher.
C'est un rabaissement de nos institutions, c'est une utilisation un peu boursouflée de ce qu'est la monarchie présidentielle. C'est-à-dire que, bravache, le président vient devant ses troupes, son cercle d'amis, son fan club, se faire applaudir pour dire « le responsable c'est moi ». Ça déjà, bon, bah, très bien, dont acte. Ça confirme l'idée qu'il faut l'auditionner. Et qu'il vienne me chercher, dit-il après. En fait, là, on en reste aussi un peu étonné. Qui est ce « il », le peuple français, mais qu'il y prenne garde, il pourrait arriver qu'il vienne le chercher. Ou est-ce que c'est les parlementaires comme nous qui ont des questions précises à lui poser? Si c'est le cas, donc il faut là encore que le président de la République accepte d'être auditionné. Et on est même prêt à se déplacer pour aller l'auditionner à l'Élysée. Si en vérité M. Macron, un peu comme, vous savez, quelqu'un qui serait derrière une vitre solide, profère un peu des menaces et des insultes, mais en vérité ne veut surtout pas que la personne qu'il vise vienne le toucher, c'est assez indigne où ça montre que le président Macron reste dans l'esquive. Moi j'ai qualifié ça hier soir, pardon l'expression un peu fleurie, d'une sorte de bras d'honneur. C'est aller vous faire voir, je n'ai aucun compte à vous rendre, et affaire suivante. Sauf que je crois qu'aujourd'hui il y a une exigence citoyenne qui ne peut pas se limiter seulement à ce que le président bombe le torse et à ce que tout le monde d'un seul coup baisse le ton. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Alexis Corbière, au micro de Bastien Roch, depuis l'Assemblée nationale. Les chiffres du chômage pour le deuxième trimestre 2018 affichent une quasi-stabilité. Ils ont été rendus publics à la mi-journée, même si la tendance est un petit peu à la hausse, plus 0,2%. Sur un an, c'est-à-dire depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, le nombre de demandeurs d'emploi, en comptant ceux qui exercent une activité, a augmenté d'1,5%, alors que le nombre de chômeurs, proprement dit, c'est-à-dire sans aucune activité, lui en baisse d'un peu plus d'1%. Sur ces derniers chiffres, le commentaire d'Éric Heyer, il est le directeur département analyse et prévisions à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Globalement, on est sur une stabilité du chômage. Vous voyez, quand on est à une hausse du chômage de 5 000, c'est pas significativement différent de zéro. Donc, on peut considérer que c'est une stabilité du chômage aujourd'hui au premier trimestre et que ça révèle le fait que globalement, on a une population active qui augmente de 35 à 40 000 tous les trimestres. Et donc, on a créé 35 à 40 000 emplois au cours de ce même trimestre. Et donc, il y a une stabilité. Ce qui est intéressant, c'est de regarder à l'intérieur des catégories. Ben, voir que globalement les catégories des plus de 25 ans et même des catégories relativement âgées de chômeurs est en légère baisse, mais que la catégorie qui augmente, c'est les jeunes. Alors pourquoi ? Sans doute, ça c'est le reflet de l'arrêt des emplois aidés qui aujourd'hui étaient ciblés sur les jeunes. Et lorsque vous supprimez ces emplois aidés, on voit que le chômage de ces mêmes personnes, donc des jeunes, réaugmente. Sans cela, on aurait connu une très légère baisse du chômage.
Éric Heyer au micro France Culture de Catherine Pétillon. Les grandes manœuvres dans le commerce international. Donald Trump reçoit à la Maison-Blanche Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. L'Europe craint maintenant que les USA imposent des droits de douane sur les importations de voitures, entre autres menaces américaines. Et pendant ce temps, à Johannesburg, en Afrique du Sud, sont réunis les dirigeants des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'occasion pour Pékin de promouvoir un nouvel axe commercial en réponse au protectionnisme américain. Trois semaines après son évasion spectaculaire d'une prison de Seine-et-Marne, le braqueur Redouane Faïd a été repéré finalement à bord d'une voiture transportant des explosifs à Sarcelles dans le Val d'Oise. On a appris qu'aujourd'hui, son interpellation s'est jouée, semble-t-il, à quelques minutes près. Redouane Faïd est activement recherché depuis qu'il s'est évadé de la prison de Réau le 1er juillet dernier, aidé par un commando armé équipé d'un hélicoptère. Une fusée, Ariane 5, lancée de Kourou, a lâché aujourd'hui dans l'espace quatre satellites destinés au système de navigation européen Galileo, système destiné à concurrencer le GPS américain et autres systèmes de géolocalisation. L'enjeu commercial est très très important. Rappelons que dans notre quotidien, en moyenne, sans le savoir, nous utilisons une cinquantaine tout de même de satellites. 18 départements, désormais placés en vigilance orange à la canicule, à ceux d'Île-de-France et du Nord se sont ajoutés l'Aisne, l'Ardèche, la Côte d'Or, la Drôme, la Marne, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Saône-et-Loire. Demain, plomb fondu, le soleil sera en effet de plomb, maximal jusqu'à 38 degrés. Fin de cette édition, réalisée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal sur France Culture, ce sera 22h avec Clarence Rodriguez.